Accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Racette avec vous pour cette 40e émission d'Accès libre avec l'actuelle équipe. Très content d'avoir été avec vous pendant toutes ces émissions et ça continue en rappel cet été, mais aussi dans une nouvelle édition à l'automne. Donc aujourd'hui, c'est la chance, j'ai une grande chance de rencontrer pour la première fois Gayle Ouellette, la directrice générale du regroupement québécois des maladies orphelines. Gayle est une femme orchestre en plus d'être généticienne. Elle a aidé bien du monde et pas seulement sur le plan scientifique. Elle réclame maintenant un plan digne de ce nom pour les personnes qui ont des maladies orphelines au Québec. On reçoit aussi Anne Lalande qui regarde avec ses mains et qui a toute une histoire à nous raconter. Notre chroniqueuse Jacinthe Roy, directrice générale de la PGP, vient aussi nous proposer en vrac ce qu'on peut faire l'été pour aider le financement de notre organisme. Et on fait la place belle aux chroniqueuses aujourd'hui puisqu'en ouverture de cette émission, Aube Savard nous invite à voyager dans les pays en voie de développement quand on est en situation de handicap. Des airs d'été donc à Accès libre sur Canal M, la radio de Vues et Voix. On s'imagine souvent qu'il y a trop d'obstacles dans les pays en voie de développement pour voyager quand on est en situation de handicap, mais Aube Savard veut faire mentir cette croyance. Très content que vous soyez avec nous, Aube Savard, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez envie de nous faire voyager dans ces endroits hors des, je dirais, tout inclus?
Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je suis jamais allée dans un tout inclus moi-même.
Ah oui, vous avez envie de vrai contact, c'est
ah,
ça?
Ah oui,
hein?
Tout à fait, tout à fait.
On vient, ni plus ni moins, de dire que les tout inclus, c'est pas bon. Je sais pas si on s'en rend compte, là. Non, non, c'est pas ça qu'on
non,
voulait dire.
Pas du tout, pas du tout, parce que ce sont des vacances. Et quand on a besoin de vacances, oui, c'est très, très bien.
Oui, vous, vous préférez qu'on parle de destination ou même d'aventure, c'est ça?
Oui, c'est ça, en fait.
Okay. Donc, on vous suit, Aube Savard. D'abord, voyager, c'est peut-être souvent vivre des perceptions particulières. En fait, vous avez envie de nous parler de l'impression que vous avez de la perception des personnes handicapées dans les pays en voie de développement.
Oui, tout à fait, en fait, parce que moi, ce que j'ai pu constater en voyage, c'est que parfois, on est confronté à des réactions des perceptions qui sont complètement inusitées pour nous ici au Québec. Je vous donne comme exemple, là-bas, il n'y aura aucun traitement privilégié, il n'y aura jamais aucune gratuité pour les personnes qui vont visiter un site touristique. On est perçu, par contre, ce qui est quand même bien, d'une certaine façon, comme des clients comme les autres, mais en même temps, avec le petit côté qui est un petit peu moins génial de ça, c'est-à-dire qu'on est des clients comme les autres à qui on peut soutirer de l'argent. À qui on peut faire payer, par exemple. Moi, on a voulu me faire payer pour transporter mon vélo. On s'entend que mon vélo, entre guillemets, c'était mon fauteuil roulant.
Ouais.
Donc, c'est soit qu'il y a une incompréhension de ce que c'est, parce que, bon, moi, généralement, si j'embarque dans un bus, si j'embarque dans un bateau, mon fauteuil, il est plié.
Mm-hmm.
Donc, forcément, peut-être que quand ils ne me voient pas assise dedans, ils ne savent pas ce que c'est.
Ouais.
Mais c'est peut-être aussi une manière, tout simplement, de soutirer de l'argent.
Et au-delà de ça, il n'y a pas de politique nationale souvent, même si on agréé à des pactes internationaux, ça n'a pas fait l'objet d'une politique comme dans les pays occidentaux. On aime avoir là, une politique intégrante sur les personnes en situation de handicap.
Pas du tout.
Est-ce que... vous n'avez jamais vraiment senti de pitié ou de malaise, là, en fait?
Non.
C'est ce que vous nous rapportez pour ces voyages-là?
Oui, bien, en fait, c'est le gros avantage. C'est-à-dire que moi, si je me promène en fauteuil roulant au Québec, que je vais, par exemple, au marché Jean Talon parce que je sais que j'en ai pour une heure et que je ne pourrais pas le faire en marchant, généralement, je vais, à un certain moment donné, pendant mon heure où je serai là-bas, rencontrer quelqu'un qui va me faire un petit sourire où je vais percevoir le malaise dans ce sourire-là. Et parfois même un peu de pitié.
Okay.
Donc, c'est un petit peu désagréable. Et là-bas, c'est une chose que je n'ai jamais ressentie.
Ah oui.
Donc, il y a vraiment des côtés positifs et des côtés négatifs, mais c'est complètement différent.
Puis on n'est pas dans le concept de charité, peut-être fort, dans les pays qui ont des valeurs catholiques ou qui ont eu des valeurs catholiques, c'est ça un peu?
Oui, exactement.
Paradoxalement, en raison du manque d'accessibilité, les gens sont souvent enclins à aider, même si parfois ils ne savent pas trop comment. C'est ce que vous avez remarqué. Hein?
Oui, tout à fait. Moi, par exemple, si j'avais besoin de m'y prendre d'une certaine manière pour monter dans un bus, ben, généralement, tout le monde voulait m'aider. Mais ils ne savent pas comment. Donc, généralement, ils peuvent m'empoigner le bras carrément pour me faire monter. Mais c'est parce que moi, je n'ai plus aucun pouvoir, aucun contrôle avec mes béquilles si tu m'empoignes le bras. Ouais. Donc, eux ne le savent pas. Donc, généralement, ce qu'on faisait, c'est que mon copain faisait un petit peu le tampon.
Ben, le bodyguard, pour le dire en mauvais français, c'est
ça? Oui, c'est ça, exactement. Bon, j'osais pas, là, mais...
Écoutez, avant qu'on passe en musique, parce qu'on va se faire un moment musical entre les deux, peut-être thématique, qui sait, j'aimerais que vous nous parliez d'un pays que vous avez beaucoup aimé fréquenter, visiter, le Laos. En quelques minutes, parlez-nous de ce pays d'Asie du Sud-Est que vous avez déjà visité.
Ben déjà, en partant, c'est un pays qui est magnifique. Il y a des paysages qui sont vraiment somptueux là-bas. Et les gens sont, de manière générale, assez gentils. En même temps, c'est l'endroit où j'ai vécu le plus de situations étranges. C'est-à-dire que, par exemple, nous avons rencontré un homme handicapé là-bas qui nous invitait chez lui. On a pu discuter brièvement avec sa femme, qui parlait peu anglais, mais qui a quand même été capable de nous dire... tu sais, les gens me demandent tout le temps, « Ah, tu sors avec lui, même s'il est comme ça, avec une espèce de dégoût parce qu'il est handicapé, qu'il n'est pas au sommet de sa forme. » Et moi, on m'a très souvent demandé dans ce pays-là, « Est-ce que vous êtes un couple? Moi, je voyage avec mon conjoint. » Ah ben oui. « Oh mon Dieu, ce que t'es donc chanceux, ça doit être le dernier homme sur terre comme ça. » Donc, 3, 4, 5 fois, ça va. Parce que c'est vrai, je me considère très privilégiée. Mais en même temps, tu sens que pour eux, c'est quelque chose qui est inconcevable, justement, de faire...
Mais vous n'avez pas eu l'impression d'avoir changé quelques regards, justement, ou d'avoir contribué à changer des perceptions?
Je ne le sais pas. J'espère.
Parce que même dans notre société, soyons honnêtes, là, dans notre société, il existe beaucoup de préjugés sur les couples, j'oserais dire, mixtes, de personnes en situation d'handicap et non en situation d'handicap. Mais évidemment, peut-être que les gens ne le verbalisent pas.
Exactement. Elle est là, la différence, en fait. Et ce qui est le plus étrange, c'est que c'est uniquement au Laos qu'on m'a parlé de ces choses-là. Dans les autres pays d'Asie, ça ne s'est pas produit, même pas une seule fois qu'on m'ait posé ce genre de questions-là.
Peut-être qu'il y a une grande considération du mariage qui s'est enfin... c'est difficile de savoir quand c'est dans la profondeur d'une culture. Mais donc, à Luang Prabang, vous avez vécu quelque chose d'assez intéressant avant qu'on passe en musique. Racontez-nous ça un peu.
Oui, ça, c'était vraiment rigolo. J'ai décidé de le prendre sur ce ton-là parce que sinon, ça aurait été vraiment... À pleurer. Donc, j'ai voulu aller visiter le palais royal et à la porte, le gardien m'a demandé de nettoyer les roues de mon fauteuil.
Ah ouais.
Il faut savoir que là-bas, c'est normal de se déchausser quand on rentre dans une maison ou dans un lieu de culte. Donc, je comprends le truc. Ça dépend des familles, mais là-bas, c'est vraiment généralisé. Et donc, je lui ai demandé s'il pouvait me donner un torchon. Il est parti en chercher un. Mais entre-temps, sa collègue, qui ne parlait pas anglais, nous a fait signe d'utiliser notre T-shirt pour nettoyer le fauteuil roulant. Et ensuite, d'utiliser mon foulard, parce que j'ai fait « ben non, c'est pas vrai que je vais utiliser mon T-shirt pour nettoyer les roues de mon fauteuil ». Et par la suite, elle nous a mimé de lécher les roues du fauteuil. Donc, je suis restée, mais vraiment estomaquée. J'en revenais pas de ce qui se passait devant moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Et je suis allée en parler quelques jours après au centre info touriste, si on veut, de Luang Prabang. Et les gens étaient extrêmement mal à l'aise et ne voulaient pas en entendre parler. Donc, il y avait une seule occidentale qui était au kiosque du centre info touriste. Et c'est seulement avec elle que j'ai pu en discuter. Puis elle m'a vraiment expliqué, mais ici, c'est que c'est tabou. Les gens sont cachés dans leur famille et on n'en parle pas.
Mais c'est sûr que quand les tabous subsistent, ça donne lieu à toutes sortes de débordements ou de manières un peu particulières de s'adresser à la situation.
Oui, c'est ça.
Bon, écoutez, vous avez certainement inspiré quelques anthropologues, mais pour deux instants, nous irons en musique et on reviendra pour en savoir plus sur comment les personnes en situation d'handicap vivent l'inclusion ou l'exclusion un peu à travers le monde. Thank you.
la solitude de voyageurs, pauvres guerriers sans peur. Dans la gare, de nulle part, tu attends ton prochain départ. Où elle n'y sera pas, celle que tu cherches, et qui n'existe pas, et qui n'existe pas. Nous étions heureux, tous les deux, disaient les amoureux. Et toujours le temps passe, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est la mort qui grimace. C'est la mort qui grimace. Sombre est ta solitude de voyageur, pauvre guerrier sans peur. À travers la vitre embuée, tu vois le paysage qui défile. Les poteaux de téléphone et les fils, et enfin les champs de blé qui te prennent à rêver. Qui te prennent à rêver. Te rappelles-tu la table en fleurs, ta mère et tes sœurs, ton père et son déshonneur. Sombre est ta solitude de voyageur, comme tu pleures, pauvre déserteur. Et soudain tu sens la douleur, et soudain tu sens ton cœur. Ne te reste plus que quelques heures, voyageur. Bientôt tu meurs. Bientôt tu meurs. Après-demain comme avant-hier, tout retourne à la poussière. Et ne subsiste que le destin de tes passages dans les trains, de ton visage et du sien, de tes pas sur les chemins. Dors tranquille, ce n'est rien, juste un voyage, juste un peu plus loin. Nous étions heureux, tous les deux, disaient les amoureux. Et toujours le temps passe, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu vois la mort en face, c'est la vie ta grimace. Et toujours le temps passe, quoi, un corbeau qui passe dans le ciel, et moi, où sont les hirondelles? Tu vois la mort en face, quoi, un corbeau qui passe dans le ciel, et moi, où sont les hirondelles? Nous étions quoi, corbeau qui passe dans les ciel, et moi, où sont les hirondelles? Quoi, corbeau qui passe dans les ciel, et moi, où sont les hirondelles? Nous, et toujours les séances.
Voyageur de Jean Leloup. C'est si heureux d'entendre encore Jean Leloup. Et pour la première fois, l'émission, je dois le souligner, on retourne donc avec Aube Savard qui s'intéresse à une tonne de destinations à travers le monde et qui peut-être maintenant pourrait nous faire voir ce côté sombre de pays pourtant lumineux. Donc, on parlait plutôt d'exclusion ou de manière d'inclure ou de ne pas inclure. Vous avez vécu plusieurs choses dans quelques pays là, dont vous aimeriez nous parler, Aube.
Oui, en fait, ce qu'on se rend compte au Laos et au Cambodge principalement, c'est que l'accès aux études puis au marché du travail est très difficile, et même aux soins de santé, paraît-il. Mm-hmm. Je vous donne un exemple. Au Cambodge, même au Vietnam, c'est comme ça, il y a des structures qui ont pour objectif, finalement, de faire travailler les personnes qui ont un handicap, mm-hmm. parce qu'autrement, elles sont incapables de se trouver un emploi.
Oui, mais vous savez quand même que c'est le cas pour une personne sur deux en situation d'handicap ici, à peu près. Hein?
Oui, je sais.
mais ceci dit, on remarque qu'il n'y a pas d'infrastructure comme il y en a nécessairement.
Il n'y aura pas nécessairement tant d'associations que ça là-bas. Ouais. Ici, on est quand même mieux structuré. Une personne en situation de handicap peut quand même arriver à se trouver un emploi avec des personnes qui ne le sont pas, mm-hmm. alors que là-bas, c'est uniquement, par exemple, à Angkor, sur le site de Angkor, ben, il y avait un groupe de musiciens qui mendiaient d'une certaine façon, mais c'était organisé, mais c'était que des personnes handicapées ensemble. Et au Vietnam...
Donc, on associait la mendicité et le fait d'être musicien?
Oui, tout à fait, exactement. Donc, c'était organisé, tu sens, bon, je ne sais pas de quelle manière est-ce que ça s'est que ça s'est mis sur pied, mais c'est comme ça qu'ils y arrivent là-bas. Au Vietnam, par exemple, on s'est arrêté dans un atelier qui embauchait uniquement des personnes en situation de handicap pour faire toutes sortes de travaux d'artisanat, et ensuite tout ça était vendu aux touristes, ce qui permettait à ces personnes-là d'avoir un certain salaire.
Et donc, vous ne trouvez pas ça spécial d'avoir été une personne en situation de handicap, touriste, et donc de faire face à des gens qui devaient particulièrement s'adresser à vous comme touriste? Est-ce que c'est passé des rencontres particulières?
Ben oui, justement, au Vietnam, j'ai rencontré l'homme qui s'occupait justement de ce centre d'artisanat-là. Et puis, c'était super intéressant, il parlait même français. Donc, ça a été vraiment une rencontre très constructive parce que, justement, on a pu faire confronter un petit peu nos points de vue puis la manière dont ça se passe dans nos pays respectifs. Donc, c'était vraiment très intéressant.
Vos récits de voyage sont surprenants. Si on peut aller du côté de la superstition, hein, on parle de moins de rencontres, mais de rencontres avec le transcendant ou... peu importe, là. Donc, vous avez quelques moments intéressants à nous raconter avec ça.
Oui, en fait, ce ne sont pas des pays où je suis allée, mais c'est des faits que j'ai lus. Et donc, en Indonésie, une personne handicapée est considérée comme étant victime de malédiction où elle expie un péché selon eux. Donc, on s'entend là, qu'on est très loin de la conception du handicap qu'on a ici en Occident. En Algérie, on pense que la personne, elle est frappée par le malheur.
Donc qu'elle doit être aidée, au fond.
Ah oui, tout à fait. Mais
peut-être quelque chose...
Exclue souvent.
Exclue souvent, oui. Ça vient avec. Aider en profondeur, ça vient avec une exclusion, puisqu'on ne considère pas que la personne est autonome, au fond. On n'aura pas besoin nécessairement de parler, peut-être du continent africain que vous avez fréquenté. Vous êtes allé dans quel pays?
Je suis allée au Sénégal.
Au Sénégal, ah oui.
Oui, oui. C'était super intéressant. Mais par contre, c'est pas un lieu, c'est pas nécessairement un pays où j'ai aimé tant que ça les gens.
Oh non!
Non, c'est étonnant, hein? J'ai beaucoup aimé le pays, j'ai beaucoup aimé les paysages, mais les gens, je les ai trouvés difficiles. On a voulu nous arnaquer, on a voulu nous voler.
Oui, mais c'est parce que vous êtes un riche, là. Vous venez d'un pays
qui
les a servis, qui les a servis.
Tout à fait, mais là-bas, on se sent vraiment comme un portefeuille ambulant. Donc, par exemple, mon copain me poussait, on traversait un pont, et puis il y a 5 types qui sont arrivés qui ont voulu lui faire les poches.
Ouais.
Donc, on s'entend, c'est pas quelque chose qui arriverait du tout.
Mais il
n'y
a pas des manières, peut-être, de faire un voyage plus sécuritaire, des lieux qu'on doit préférer?
Bien sûr, si on part en étant accompagné de quelqu'un de l'endroit, jamais on va vivre ce genre de truc-là. Mais moi et mon copain, on est plutôt, pas tête en l'air, mais disons qu'on aime bien se lancer. Et puis, la personne chez qui on allait, qui est un ami de mon copain, nous avait dit, je peux demander à ma bonne de vous accompagner ou à mon gardien de vous accompagner. Puis nous autres, non, pourquoi? Pas de problème, on va y aller, on est capable tout seul.
Donc, conseil...
Ouais,
soyez accompagné de quelqu'un
qui
vit au quotidien là-bas. Aube Savard, vous avez des tonnes d'histoires à nous raconter, des conseils à nous donner. Vous allez revenir d'ailleurs à l'automne.
Bien sûr!
Ça, c'est très heureux d'entendre ça. Et peut-être que vous pourriez rediriger les gens qui nous écoutent vers un site où on peut encore mieux apprécier vos anecdotes, vos conseils. Donc, où on se rend, Aube Savard, pour en savoir plus?
Il y a mon blog personnel, voyageramobilitéréduite.com.
Bon, ça, c'est bien, d'abord.
Hein?
En plus, il faut dire que vous êtes, avec nos amis de Québec, l'émission Les Capés.
Oui, hein?
Vous êtes chroniqueuse
sûr.
Là.
Oui.
Est-ce que vous proposez des chroniques cet été?
Oui, cet été, je continue. Donc, bon. Une fois par mois.
Excellent. Donc, on est bon prince, là. Vous pouvez aller entendre sur ce qu'il y a aussi, ce qui se passe. Et vous êtes aussi formatrice pour Kéroul.
Tout à fait, bien sûr. Kéroul qui fait quand même énormément pour le Québec afin de rendre le tourisme et la culture accessibles. Donc, je suis formatrice pour eux. Donc, une formation qui s'appelle Service Complice et qui vise un petit peu à donner tous les conseils en termes... de la manière d'accueillir les personnes en situation de handicap.
Donc, on peut avoir plus d'informations sur kéroul.com.
Bien sûr!
Aube Savard, c'est un plaisir, comme d'habitude, mais j'ai bien hâte de renouveler ça avec plus de destinations encore à l'automne.
Ben moi aussi!
Avec nous, Jacinthe Roy, qui a un monde de projets pour améliorer le financement de votre organisme et des projets que vous pouvez réaliser cet été. Alors, bonjour Jacinthe.
Bonjour Benoît.
J'imagine que les responsables de financement ou les directrices d'organismes cet été vont avoir envie de plonger leurs yeux à travers la fenêtre, mais vous proposez qu'ils plongent plutôt leurs yeux sur une petite liste de miracles qui sera quelque part comme au-dessus de leur bureau, c'est bien ça?
Oui, un peu, mais avant de plonger dans cette liste-là, Benoît, en fait, il y a un de nos partenaires qui nous a souligné un événement important qui arrive et qui s'adresse vraiment à tous les organismes qui communiquent par courriel.
Ah oui?
Et c'est la fin de la période de transition de la loi anti-pourriel.
Ah oui?
Et la date limite, c'est le 1er juillet. Donc, je croyais que c'est important de partager avec les gens qui nous écoutent.
Soyez précise. En fait, il y a une politique actuellement qui circonscrit les méthodes qu'on peut avoir pour envoyer des courriels, donc qui contraignent l'envoi de courriels, mais il y a des dispositions spéciales pour les organismes sans but lucratif, c'est ça?
Exactement. Et puis, il y avait une période de transition qui se termine le 1er juillet. Donc, à partir du 1er juillet, il faut être en norme.
Okay.
Donc, ce que je vais faire, je vais pas en parler davantage, je vais seulement inviter les gens à aller sur notre page Facebook de la PGP et on a transféré en fait là, un article qui a été publié par notre partenaire BNP Performance qui en parle. Donc, j'invite à aller voir. Puis aussi, les gens peuvent se rendre sur le site du CRTC pour en apprendre davantage et savoir comment se conformer.
Merci beaucoup.
Très important.
Très important parce qu'avant de partir en vacances, il faut être en règle parce que la stratégie courriel, là, c'est pas mal fondamental qu'on ramasse de l'argent aujourd'hui.
C'est important, exactement.
Et donc, on revient
au sujet d'aujourd'hui.
Allons-y.
L'été, période qui est au ralenti avec les vacances. Et comme on sait que l'automne, c'est la course contre la montre en financement, hein, ça va très, très vite.
Oui.
Pourquoi proposer pour ne pas profiter de notre période estivale pour ajuster notre stratégie pour qu'on puisse se rendre sain et sauf jusqu'au 31 décembre.
Voilà. Et donc, ça implique quoi de rencontrer des gens? Qu'est-ce qu'on fait pour affûter nos stratégies?
Oui, mais en fait, à plusieurs niveaux, là, dépendamment de où on est rendu dans notre structure de financement, mais si on parle d'événements, là, je pense que ça s'adresse à tous. Donc, prendre le temps d'évaluer nos événements qui ont eu lieu au printemps et à l'hiver et ceux qui s'en viennent. Donc, sont-ils rentables? Hein? Est-ce qu'on fait de rentable et rentabilité en termes de bénéfices nets.
Oui.
Donc, évaluons ça. Est-ce qu'on fait vraiment des profits avec ça? Mais rentable aussi en termes de rayonnement pour notre cause.
Oui, parce que c'est important. Hein? Ça prend tellement de temps à faire des événements. Il faut être certain que ça réponde à nos objectifs, autant financiers que communicationnels.
Oui, donc en termes de temps et énergie versus le retour qu'on reçoit. Est-ce qu'on peut avoir un événement qui rapporte peu, mais qui nous fait rayonner dans toute notre communauté. Donc, c'est important de le garder. Et il y a des événements qu'on va se rendre compte peut-être qui ne sont plus rentables. Et même si ça fait 5 ans qu'on les tient,
Même si on a quelques bénévoles qui tiennent fort, qui aiment ça, ils participent année après année, il faut les convaincre que les besoins de l'organisme doivent primer. Hein?
Exactement. Et vous parlez de bénévoles, donc profitons aussi de l'été pour regarder nos événements en termes de participation de gens qui vont acheter un billet, par exemple, mais aussi en termes de bénévoles. Est-ce que ça fait longtemps qu'ils sont là? Est-ce que c'est un risque qu'on a de savoir que c'est des bénévoles qui sont là depuis plusieurs années qui peuvent décider qu'ils sont fatigués et qu'ils ont envie de passer à d'autres choses. Donc, évaluer ce qui s'en vient, là, parce que ça va aller vite. Il ne faut pas se retrouver sans bénévoles. On sait qu'on en a besoin.
C'est tellement important.
Oui. En termes de dons majeurs maintenant, donc, on sait que pour une campagne de dons majeurs réussie, il faut qualifier nos donateurs. Donc, faut segmenter puis identifier ceux qui sont les plus fidèles, qui nous donnent un certain montant depuis plusieurs années et avec qui on a envie de bâtir des relations plus profondes.
Puis comment on les bâtit, ces relations-là? Parce que on peut même mettre plusieurs actions sur notre fiche miracle. Là, hein?
Exact. Mais comment qu'on bâtit une relation en amitié? On s'engage et on prend le temps de parler.
Ouais.
C'est la même chose avec nos donateurs. Il faut être honnête avec eux et transparent. On n'est pas juste là pour avoir leur argent. On est là pour connaître leur histoire, savoir pourquoi ils investissent. Donc, pourquoi pas cet été prendre peut-être 3 ou 4 de nos donateurs avec qui, tu sais, qu'on a une belle relation, à les inviter à aller prendre un café. revoir avec eux quelle est leur histoire, pourquoi ils investissent dans notre cause, puis se bâtir du contenu de témoignages, puis voir avec eux comment ils pourraient nous aider à aller chercher d'autres donateurs qui seraient intéressés à donner.
On peut même être plus audacieux. Je me rappelle d'un groupe de Québec qui réussissait fort bien à tisser de bons liens avec leurs donateurs en les invitant à prendre une petite bière sur terrasse dans le Vieux-Québec. En tout cas,
ça vaut la peine de connaître son donateur à ce moment-là.
Oui, c'est ça. Ça dépend peut-être café, qu'il n'aime pas l'alcool. Faut pas faire d'impair dans ce cas-là. Là. Sinon, prend des vacances, Jacinthe Roy?
On prend des vacances. C'est sûr qu'on prend des vacances.
Mm-hmm. Puis qu'est-ce qu'on fait en vacances? Il y avait une des propositions là, qui m'enchantait.
Oui, mais je vous avoue que c'est une proposition qu'on m'avait nommée. C'était d'envoyer des cartes postales à nos donateurs. Mais moi, j'ai envie de dire, quand on est en vacances, soyons donc en vacances.
Ah oui, hein? Vous préférez qu'on prenne un vrai repos complet parce qu'on a besoin de toute notre énergie dès l'automne.
Exactement. Laissez tomber le cellulaire, laissez tomber les courriels. Mm-hmm. La terre va continuer de rouler. Et puis, il faut avoir des employés et des dirigeants reposés.
Oui.
Si on veut performer.
Puis les bénévoles aussi. Hein? Il ne faut pas trop les épuiser l'été. Quoique, on peut même lire un peu sur la plage ou en profiter pour en apprendre un peu mieux sur nos méthodes de financement.
Oui, ben alors rien ne nous empêche en vacances de penser à nous. Et de penser à nous, ben ça peut dire lire sur les méthodes de financement. Oui, mais sur les meilleures façons de communiquer. Mm-hmm. Il y a des livres fort intéressants. La meilleure façon de gérer.
Oui.
On parle de leadership. Hein, il y a une multitude de livres sur le leadership. Mais aussi, regardez, est-ce qu'il n'y a pas des cours qui nous intéresseraient?
En plus,
commence à l'automne. Ah, pourquoi pas?
Puis, si on a une organisation qui est consciencieuse puis qui croit à la formation, ils peuvent même en payer une partie.
Pourquoi pas? Ou favoriser les journées de conciliation travail à la maison pour nous permettre d'étudier.
Bon, excellent. Je suis très content d'entendre tout ça. Je veux juste rappeler aux gens qui ne le savent peut-être pas, mais vous êtes directrice générale de l'Association des professionnels en gestion philanthropique et vous acceptez de revenir avec nous à l'automne, c'est bien ça?
Oui, sans doute, oui.
OK. On espère vous retrouver puis que votre conseil d'administration et vos gens seront conciliants parce que vous êtes si importante dans notre émission. Merci d'avoir été avec nous. Je tiens à souligner toutes ces chroniques que vous avez faites qui sont repérables d'ailleurs. Vous avez juste à écrire Jacinthe Roy dans la barre de recherche ou à PGP. Vous allez toutes les retrouver si vous êtes sur notre île de Canal M. Merci beaucoup, Jacinthe Roy.
Merci, Benoît. Bon été.
Bon été.
Au revoir.
Des oiseaux, je regarde vers le ciel, je reconnaissais le corbeau, c'est assez universel. Qu'attends-tu au bout du poteau, et devant moi qui n'a pas d'aile, t'as pas l'air de me trouver bien beau. J'ai pas de plume, juste un peu de poil. Thank you. choses qui m'énervent, je sais pas si je devrais te dire. J'ai plus rien à vendre quand tu enfin me vois crever. C'est pas que ça me rend, mais si jamais tu me sens courir. Je suis pas mort pour autant, je suis juste un peu fatigué. Si tu me suivais dans mon désert, où j'avance à lâcher. Mais y'a quelque chose qui m'énerve, je sais pas si je devrais te dire. Je sais pas si tu te rappelles, j'ai voulu me fabriquer des ailes. J'ai sauté de mon toit pour aussitôt atterrir. Mais c'est tout naturel, j'ai pas peur, juste un peu poil.
Fred Fortin nous amène à parler de zèbres. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous parle d'abord du point d'actualité, puis je vous définis plus tard le zèbre en compagnie de mes deux invités. Donc, le Canada, vous le savez peut-être, est un des seuls pays industrialisés qui a ni définition, ni reconnaissance, ni politique, ni programme sur les maladies orphelines ou les maladies rares. Et dans un point de presse, le 12 juin dernier, le député François Paradis de la coalition Avenir Québec a réclamé une stratégie nationale sur la question. Il faut savoir que cette stratégie avait déjà été promise par l'ancien ministre de la Santé, le docteur Yves Bolduc, en 2011. Ça commence à presser. Avec nous, Gayle Ouellette, qui est conseillère en génétique et surtout présidente directrice générale du regroupement québécois des maladies orphelines. Bonjour Gayle Ouellette.
Bonjour.
Et restez avec nous, Aube Savard, notre chroniqueuse destination à l'émission, qui a aussi une maladie rare et qui est nécessairement interpellée par cette question. Bonjour de nouveau, Aube.
Bonjour.
Alors, j'invite Aube, si vous voulez bien, à intervenir parce que, évidemment, vous connaissez bien la question. Vous avez peut-être même des questions pour Gayle, qui est une sommité au Québec sur ces débats, sur ces enjeux autant scientifiques que politiques. Alors, justement, je commence. J'ouvre avec vous, Gayle Ouellette. Avant qu'on parle de la politique, j'ai parlé de zèbre un peu plus tôt. Pourquoi on a utilisé le zèbre pour symboliser les maladies rares et orphelines?
Oui, ben ça vient de loin, en fait. Durant les années 40, un médecin au Johns Hopkins University Hospital aux États-Unis, qui enseignait à ses étudiants, lui, en fait, il y a une citation, là. Lorsqu'on entend le bruit de sabots, il faut penser aux chevaux plutôt qu'à des zèbres. Autrement dit, les médecins, quand ils apprennent à faire un diagnostic, pensez d'abord à ce qui est plus courant, commun, puis après, ce sera les maladies rares. Le problème avec ça, c'est qu'en général, les maladies rares ont été un petit peu
négligées. Ouais.
Remarquez qu'il y en a 7000. Les étudiants ne peuvent pas toutes les apprendre, mais nous, ce qu'on essaie de dire, une fois qu'on a terminé, le commun courant, puis on se pose encore des questions, puis on n'a pas de diagnostic.
Arrêtez de dire que c'est psychologique.
Ça, c'est déjà une chose. Puis, pensez à un des 7000 zèbres.
Et donc, parmi ces zèbres, expliquez-nous, ça ressemble à quoi cette grande variété? Là, je ne pense pas qu'on va pouvoir donner un cours de 45 heures ici sur les maladies orphelines, mais peut-être identifiez-nous quelques maladies ou
Vous l'avez bien dit, la variété. Mm-hmm. par rapport à l'étiologie, l'origine, la cause, 80% sont quand même des maladies génétiques.
Ah bon, mais ça, c'est un début.
Puis, oui, puis ensuite, le 20%, il y en a une bonne part, c'est des maladies auto-immunes, inflammatoires, du système immunitaire. Puis ensuite, il y a des choses que les gens ne pensent pas, mais c'est rare, là, des intoxications, oui. Même des maladies professionnelles, mm-hmm. des infections. Il y a quand même des infections rares. Là. Je pense au virus Zika, dont on a beaucoup parlé.
Le virus du cas?
Zika, là,
Zika,
c'est la
oui,
fameuse moustique. Là, puis, oui. Mais ben, on espère qu'il reste rare. En tout cas, chez nous, là, il,
ouais.
il y a la tique.
C'est un peu plus présent aux États-Unis. Hein,
oui, c'est ça. Les plus dans le sud, mm-hmm. l'hémisphère sud, mais on s'inquiète. Puis, je sais pas, la maladie de Lyme, là, de la tique,
oui.
on est encore rare, mais là aussi, on espère qu'elle demeure rare. Fait que, donc, ça couvre pas mal tout, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une bonne partie que c'est des maladies non diagnostiquées, là, soit parce que chez une personne, soit parce qu'on n'est pas arrivé à la diagnostiquer, mais aussi ce qu'on appelle de nouvelles maladies, là, entre autres dans le domaine de la génétique, où il y a des fois, il y a juste quelques personnes à travers le monde où une personne, on finit par en trouver d'autres, puis après ça, on la caractérise. Ça arrive encore. Mmh.
Bien, c'est comme dans le fond des mers, hein, je dirais, il y a des tonnes d'espèces qui n'ont pas été encore identifiées. Tristement, plus on avance en science, plus on se rend compte que c'est la même chose pour les maladies.
C'est vrai, c'est un fait. Puis
bon.
En génétique, on en découvre là, presque tous les jours avec les nouvelles technologies.
Donc, Gaëlle Ouellet, rappelons que vous êtes généticienne d'abord, mais vous avez eu besoin de fonder un regroupement afin d'aider, de soutenir, de sensibiliser. Vous avez fondé le regroupement québécois des maladies orphelines. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez eu besoin de...
Ben c'est en fait, j'étais généticienne avant, j'étais dans le milieu de la recherche et puis à un moment donné, j'ai décidé d'aller faire la maîtrise en conseil génétique pour être en clinique au lieu d'être dans un laboratoire ou derrière un ordinateur. Fait que je voyais des gens comme Aube ou les parents d'enfants ou des couples en clinique là, pour leur donner du conseil génétique. Puis c'est là que j'ai vu le peu de ressources là, au niveau information et soutien pour ces maladies rares-là.
Il n'y a presque rien, en fait. Ouais. Moi, c'est quand Internet est arrivé, je me suis garrochée.
Voilà.
Il y en a-tu d'autres comme moi dans le monde?
Ah oui, hein?
Ah oui, vraiment. Puis je me disais, si je rencontre quelqu'un qui a exactement la même chose que moi, peut-être que ça va me donner une indication sur ce qui m'attend. Mm-hmm. Et puis finalement, bon, j'ai rencontré une personne qui était plus jeune que moi, mais pour qui ça s'était développé, mais de manière totalement différente. Mm. Donc, j'ai compris qu'en fait, maladie orpheline, ça veut aussi dire... parfois évolution qui est totalement différente d'une personne à l'autre.
Ben oui, bien sûr, il ne faut pas s'imaginer qu'on est tous semblables, même avec des caractéristiques génétiques semblables. Hope Savard, juste pour qu'on comprenne, vous avez une maladie orpheline, quelle est-elle?
Une dysplasie spondylo-épiphysaire. Donc, sans doute que madame pourrait mieux expliquer que moi encore.
Oui.
Moi, je l'explique de manière très, très simple en disant que c'est une malformation de l'extrémité des os et qu'il y a un défaut dans le gène du cartilage articulaire qui fait que le cartilage se désagrège. Mm-hmm. Mais sincèrement, je ne peux pas en dire plus que ça. Ouais. C'est trop complexe pour moi.
Est-ce que Hope Savard pourrait, grâce au regroupement, rencontrer des gens qui vivent?
Oui, on fait ça. Entre autres, tu sais, pour l'information, puis entre autres, essayer d'en avoir en français au Québec.
Oui,
là, c'était important.
Hein?
Fait que c'est pour ça qu'on a même créé un centre d'information et de ressources en maladies rares. Fait que n'importe quelle information que vous voudriez, même sur la recherche, où c'est rendu, y a-t-il des essais cliniques? Mais on fait ce qu'on appelle, nous, le jumelage.
Ah,
donc,
oui.
Si les gens acceptent qu'on garde leurs coordonnées, on essaie de faire ça avec leur autorisation. On fait ça avec leur autorisation, puis dans la confidentialité. On met des familles ensemble comme ça, parce que malgré l'Internet, où on peut trouver des gens là, hein, l'autre côté du globe, avec notre maladie, il y a beaucoup de gens qui veulent trouver des gens ici, au Québec. Puis, vous savez, c'est très difficile lorsqu'ils demandent à les médecins ou à un département dans un hôpital, « j'aimerais ça que vous me mettiez en contact. » Les professionnels, ils n'ont souvent pas le temps dans leur pratique.
Mais ils ont peu de temps pour leur pratique, alors, pour ce qui est psychosocial... ça tombe aussi chez les professionnels qui ont eux-mêmes pas beaucoup de temps. Alors, merci beaucoup à votre regroupement. Donc, J'imagine ici, on a peut-être quelque chose comme le début d'un jumelage.
C'est ce que, exactement ce que je me disais. J'ai ma foi, c'est super intéressant. Oui, je veux.
Donc, c'est fait. Aube Savard va entrer en communication avec Gail Ouellet pour peut-être être jumelée avec une personne qui vit un peu la même réalité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme service que vous offrez au regroupement des maladies rares?
Donc, c'est ça. On fait, pour quelqu'un qui nous appelle pour n'importe quelle maladie, une fiche complète avec toutes ces informations-là, même les associations qui existent, s'il y en a, les projets de recherche, s'il y a des registres de patients, s'il y a des biobanques de tissus, s'il y a des essais cliniques, où en sont les médicaments orphelins qu'on appelle, tout ça. Puis on donne des documents qu'on considère plus faciles à comprendre, soit en anglais, français, et des documents aussi pour l'équipe soignante. Puis, fait que ça, c'est la partie information. Bien, il y a soutien. Le soutien, c'est... nous, on n'a pas ces services-là, on ne peut pas, mais référer là, pour du soutien psychosocial, du répit, du gardiennage, de l'aide financière. On ne peut pas en donner, malheureusement, mais on peut référer où il y aurait des possibilités. Les programmes gouvernementaux, des groupes communautaires dans le quartier de quelqu'un ou dans la ville pour qu'ils peuvent les aider avec, les handicaps.
Donc, vous avez tout un volet pour soutenir les personnes.
Oui.
Évidemment, ce n'est pas la seule dimension. Au regroupement québécois des maladies orphelines, vous avez aussi un mandat, je dirais, collectif ou d'interpellation des décideurs pour que les choses changent. Il faut juste dire que vous êtes un organisme assez jeune. Hein? Vous avez été fondé en 2010.
Oui, ça fait 7 ans, oui.
Et depuis 2015, il s'est passé quelque chose d'important en 2015. Vous avez tenu vos premières journées éducatives sur les maladies rares, c'est ça?
C'est-à-dire qu'à chaque année, on a une journée éducative. Ça, c'est l'autre partie, en fait, que je n'ai pas mentionnée. On fait des web conférences, des colloques. Mais ça, c'est en 2015, c'est le sommet des maladies rares où on a réuni une cinquantaine de personnes de tous les domaines, là, associations de patients, mais aussi médecins, chercheurs, etc. Et on a élaboré notre stratégie pour les maladies rares au Québec avec une quarantaine de propositions.
Donc, il y avait des spécialistes, des personnes, des gens très avisés. Vous avez une idée de plan.
Oui.
Et comment ça se fait, Gail Ouellet? qu'aujourd'hui encore, il n'existe rien au Québec qui encadre tout ça. Et pour soutenir ce que je dis, je veux juste rappeler cette sortie du député François Paradis qu'il a fait le 12 juin dernier. Je réfère à un article qui est paru dans Le Soleil, signé par Elisabeth Fleury. Je vais même le citer, si vous permettez. Au Québec, les patients sont laissés pour compte par le système de santé, résumé le porte-parole caquiste en matière de santé. À titre de comparaison, la France en est à la 3e mouture de son plan national sur les maladies rares, qui a été lancé en 2005. L'Alberta s'est doté d'un programme de médicaments pour les maladies rares en 2009. Et il y a plein d'autres exemples comme ça à travers le monde. Et au Québec, rien.
Oui, c'est ça.
Donc, il y a urgence d'agir.
Rien, il y a... Là où ça a avancé, puis j'aime toujours le dire, c'est au niveau de la recherche. On commence à comprendre que c'est un domaine qu'on devrait faire un peu plus de recherche dans les maladies rares. Fait qu'il y a eu des initiatives, quelques-unes, dans les dernières années, mais c'est tout le reste là, qui touche... on parlait de diagnostic d'aube tantôt, puis pour qu'ils ont réduire les délais de diagnostic, la clinique a éduqué, informé les médecins, des traitements accessibles, il y a encore des problèmes d'accès aux médicaments, puis les maladies rares, tout ça. Bien, nous, on aimerait un plan. Nous, on l'appelle une stratégie, mais dans tous les pays de l'Union européenne ont maintenant un plan national maladies rares. La France a commencé, était les premiers en 2005, sont rendus au 3e. Il bonifie, puis on essaie de l'avoir au fédéral canadien, mais là, on sait qu'il faut travailler dans notre province. De toute façon, la santé est une compétence provinciale.
C'est une compétence provinciale. En fait, le fédéral a juste un pouvoir par son financement, mais c'est vraiment au Québec qu'on doit décider ça.
Voilà.
Alors, qu'est-ce que vous faites en ce moment pour interpeller le gouvernement? Évidemment, vous avez eu l'aide de la CAQ, mais où vous en êtes rendu?
C'est-à-dire que depuis janvier, on contacte le cabinet du ministre. Pour essayer d'avoir une première rencontre. On n'a jamais pu, depuis 2010 avec le docteur... 2010 et 2011 avec le docteur Yves Bolduc, à l'époque, on n'a plus jamais pu avoir un contact pour en parler directement avec un ministre de la Santé. Donc, on demande ça, puis on a fait... une conférence de presse sur le 21 mars. Il y a une maladie en particulier qui est plus fréquente qu'on le pensait, qui a beaucoup de problèmes. On a fait un lien avec ça. Aux États-Unis, ils ont parti une clinique pour cette maladie-là en disant ben ça pourrait être une clinique modèle pour des maladies rares.
Ah oui.
Donc, c'est ce qu'on attend, hein, d'avoir une rencontre avec le docteur Barrette. Nous, comme on a dit, nos solutions sont toutes déjà discutées sur papier. Là, on va les sortir. On attendait parce qu'on aurait aimé ça, discuter d'une façon coordonnée, intégrée d'appliquer la stratégie au Québec.
Mm-hmm. Mais là, donc, d'avoir un peu les conseils, faire un va-et-vient avec le ministère pour voir ce qui est cohérent aussi.
Le ministère, d'autres médecins dans les établissements ou dans même les médecins, des médecins de famille sont interpellés aussi. Mm-hmm. Puis qui,
mais en fait, même particulièrement.
Ont de la difficulté, eux aussi.
Même particulièrement les médecins de famille, parce que c'est, qu'on le veuille ou non, même si ça n'a pas toujours été géré comme ça, c'est la porte d'entrée du système au Québec.
Tout à fait.
Il faut que votre médecin de famille allume et se dise c'est peut-être une maladie orpheline que vous avez, donc on va aller
savoir
chercher les ressources.
Savoir où référer, etc.
Bien, c'est très important, c'est pas tout le monde qui le sait, hein. C'est pas tous les médecins qui sont à l'affût de ça. Mm-hmm. Moi, j'ai déjà rencontré un médecin qui était complètement paniqué par mon cas.
Ah.
Donc, mais vraiment.
Donc, écoutez, il y a deux voix autour de la table, mais aussi des centaines, voire des milliers de gens au Québec qui vivent cette situation. Donc, comment on vous aide, Gaëlle Ouellet? Quelle est l'adresse de prédilection pour vous soutenir ou en savoir plus?
OK, bien, notre site Internet, www.rqmo.org. Puis, sur la première page, vous allez déjà voir, là, pour le centre d'information, puis pour la stratégie, puis beaucoup de publications sur Facebook avec de l'information sur ce qui se passe ailleurs aussi.
Donc, on appuie, on partage. Merci beaucoup, Gaëlle Ouellet. Rappelons que vous êtes généticienne et surtout présidente, directrice générale du regroupement québécois des maladies orphelines.
Merci beaucoup.
Merci, on continue de vous appuyer. Merci, Observeur, d'être passé pour nous parler de votre situation. J'imagine que vous allez appuyer.
Ben, ça va de soi.
Donc, Hope Savard, on la retrouve bien sûr sur un voyage à mobilité réduite. On continue cette émission et on n'oublie pas d'appuyer les zèbres. Anne Lalande a une histoire peu banale, celle qui dit elle-même se situer entre ange et démon et massothérapeute depuis 25 ans. Elle possède sa propre clinique, elle peint avec ses mains, fait de la moto avec son amoureux. Donc, portrait d'une amoureuse qui voit la vie autrement. Bonjour, Annie Lalande.
Bonjour, Benoît.
Bonjour. Donc, Annie, si vous permettez, je vais dire aux gens, vous avez perdu la vue à 16 ans à la suite d'une maladie et vous avez assez longtemps vécu dans le déni. Ça n'a pas été facile pour vous d'accepter cette situation. Racontez-nous ce qui vous a sorti de cet état. Qu'est-ce qui a enclenché votre processus, d'inclusion ou de participation à la vie?
En fait, j'ai donné naissance à mon fils.
Ah oui.
Puis ça m'a propulsée parce que je voulais qu'il y ait une maman autonome avec... qu'il soit capable de se déplacer, qu'il soit capable de lui faire à manger, de faire le quotidien.
Mm-hmm.
Oui, alors j'ai fait une réadaptation. C'est sûr que la venue de mon enfant fait que j'ai désiré m'accomplir entièrement et pleinement.
Bien sûr. Ouais. Ben oui, c'est souvent plus fort que nous. Avoir un enfant, ça nous donne envie de se battre. On voit les choses bien autrement. Qu'est-ce qui vous a amené, pas juste à être une maman là, qui voulait être un modèle et active pour son enfant, mais qu'est-ce qui vous a amené aussi à la massothérapie, Annie Lalande? Oui.
En fait, c'est un certificat cadeau, un chèque cadeau que j'ai reçu.
Ah oui?
Puis suite à cet événement-là, oui, c'était vraiment particulier parce que quand j'ai reçu le cadeau, j'étais toute enthousiasme et réceptive à l'idée de recevoir un soin de massothérapie.
Puis, ah, ça fait du bien. Ça, parfois, on en a besoin.
Oui. Tout le monde en a besoin, les petits et grands.
Oui, voilà.
Oui. Et c'est ça, bien, suite à cet événement-là, moi, j'ai été me faire masser, puis durant que j'étais sur la table de massage, c'était comme une révélation pour moi. Je me suis mise à pleurer, c'était inconsolable, mais en même temps, c'était comme j'étais remplie de gratitude parce que je venais de découvrir ce que je pourrais faire, ce qui était possible pour moi de réaliser, d'aller vers la massothérapie comme métier. Fait que c'est ça.
C'est une révélation, c'est vraiment ça qui s'est passé, là.
Oui.
Est-ce que c'est vrai, dites-nous, cette idée là, persistante qui voudrait que les massothérapeutes aveugles aient plus de ressenti ou même plus de dextérité?
Oui, c'est très cliché.
Ah oui, oui, c'est cliché, je sais. C'est pour ça que je vous expose à ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Bien, une idée qui est là, qui est très ancrée. Les gens, dès que je mentionne que je suis non-voyante, bien, ça l'enlève comme une gêne, une pudeur. Les gens croient vraiment qu'on a un toucher différent.
Mais en même temps, parce que vous ne voyez pas la personne, si la personne est complexée, ça peut être aidant.
Ça peut être aidant.
J'ose dire ça.
Il y a toujours des avantages dans tout.
Oui.
Puis ça peut en être un pour les gens qui vivent des complexes ou qui ne sont pas confortables avec leur corps. Mais écoutez, c'est ça. Il faut vivre l'expérience pour découvrir si oui.
Ah oui! Vous êtes déjà en train d'offrir vos services. Bon. Mais donc, sérieusement, au fond, c'est peut-être une idée reçue. Vous ne pensez pas qu'il y a un gain là, particulier au niveau d'un des sens, nécessairement, parce que vous n'avez plus la vue.
C'est sûr que tous nos sens viennent amplifier. Ça se fait naturellement.
Ouais.
C'est les gens qui perdent la vue ou qui ont... Je pense que tout c'est ainsi. L'être humain est ainsi.
Oui.
Oui.
Vous avez décidé en 2015 de faire un geste qui n'est pas facile pour une personne aveugle qui a eu l'habitude d'être accompagnée d'un chien guide. Vous avez décidé de renoncer à cette aide-là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
En fait, j'ai eu le bonheur de rencontrer un amoureux. Qui a une moto, Harley Davidson.
Oui, OK.
Et on s'est mis à... Moi, c'était un de mes rêves de vie,
ouais.
De faire de la moto, d'autant plus sur une Harley Davidson. Et j'ai commencé à voyager avec mon amoureux. Puis quand je quittais pour aller faire de la moto, j'étais déchirée de laisser mon chien guide à la maison.
Ah oui.
Puis elle courait pas assez vite, alors j'ai dû trouver une solution. j'ai réfléchi à tout ça. Puis j'ai appelé Mira, puis j'ai soumis ce que je vivais. Puis je me disais, dans toute mon intégrité et mon authenticité, je suis remplie de gratitude envers les gens qui donnent pour Mira parce que c'est un organisme à but non lucratif foncé.
Oui, et ça coûte cher entraîner un chien, on le sait.
Ben oui, c'est au-dessus de 30 000 $. Alors moi, je pouvais pas concevoir de laisser mon chien à la maison puis que peut-être quelqu'un d'autre aurait eu besoin.
Oui.
Mais finalement, ça s'est avéré qu'elle a été évaluée. Elle avait déjà quand même 8 ans. Et puis, elle a été évaluée. Puis, ils ont décidé d'appeler sa famille d'accueil. Puis là, ben Floris est retourné dans sa famille d'accueil initiale. C'est un cadeau pour elle. Puis moi aussi, parce que je sais qu'elle est bien, elle est heureuse. C'est un petit chien libre, heureuse et joyeuse.
Ben c'est de l'histoire
comme
de liberté.
Sa
ouais, c'est ça. j'allais le dire, mais j'avais pas envie de faire un pont aussi total entre vous et elle. Mais la liberté, c'est un des mots de votre histoire, Annie Lalande. Vous êtes libre aussi avec vos mains puisque vous peignez. On n'aura pas le temps d'en parler davantage. Mais donc pour tout ça, pour votre massage heureux, vos peintures, on peut se rendre sur le regard des mains massothérapie sur Facebook, hein, c'est
oui.
ça?
Et Annie Lalande, artiste. Te peindre. Oui, vous allez me trouver sur Facebook.
Bon.
Avec plaisir. plaisir.
Ben, c'est au plaisir de vous reparler et de vous lire. Là, je vais pas me négocier un service comme ça. Là, on va faire ça un autre moment. Mais donc, j'invite les gens à savoir plus en visitant votre page Facebook. Merci, Annie Lalande.
Merci. Bonne journée à tous. Merci, Benoît. Bye bye.
Pour avoir plus d'informations sur les intervenantes et les organismes qui viennent ici, et même pendant l'été, alors qu'on sera en rappel, vous visitez la page de l'émission Accès libre, vous la repérez sur canalm.viewsetvoix.com. Évidemment, l'information pertinente, vous pouvez la retrouver, vous êtes redirigé vers les bonnes adresses. Avec nous aujourd'hui, très content d'avoir eu Aube Savard, notre voyageuse. On la retrouve à l'automne, Jacinthe Roy de la PGP, et aussi, très important combat, celui des maladies orphelines et leur plan à bâtir. On remercie Gaëlle Ouellette du Regroupement québécois des maladies orphelines. Merci Sylvie Richard à la recherche, Christiane Campagnat en communication, Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. En rappel cet été et on se revoit cet automne. À bientôt.